Vous écoutez On lit pour vous.
Un paradis perdu au Vietnam par les humains. Un texte d'Éric Desrosiers paru le 12 février 2024 dans Le Devoir. Né de l'union de la terre et l'eau, le delta du Mékong est aujourd'hui menacé de disparition, victime du peu d'attention portée au fonctionnement fragile et complexe de la nature. Premier article d'une série de 4. De nos jours, les motocycles, les voitures et les camions ont remplacé les embarcations comme principaux moyens de transport dans le delta du Mékong, tout au sud du Vietnam. Les routes, de plus en plus larges et nombreuses, doivent toutefois encore enjamber sans cesse les mille et un fleuves, rivières et canaux qui zèbrent le paysage à travers les palmiers, les plaines et les champs. En fait, quand on regarde de plus près, on réalise que même là où l'on voit toutes sortes de teintes de vert, l'eau est aussi omniprésente, puisqu'on y trouve également des fermes d'aquaculture et des rizières inondées. S'il reste encore quelques champs dont les plants de riz longs et dorés attendent d'être récoltés en cette fin de la saison des pluies, la plupart des rizières ont déjà redémarré un nouveau cycle de vie et sont couvertes de petites pousses d'un vert tendre. De l'eau jusqu'aux genoux, au bout d'un long champ dans la chaleur moite de ce mois de décembre, l'oncle Haï attrape des plants avec leurs mottes de boue pour les lancer mollement un peu plus loin, où ils auront plus d'espace pour s'épanouir. L'année 2023 a été mauvaise avec toutes les inondations, dit l'homme entre deux âges, au visage buriné par le soleil. Cette année s'annonce bien meilleure grâce à la crise alimentaire qui a fait monter les prix mondiaux. Espérons maintenant qu'il n'y ait pas de pluie les 3 prochains mois. Ce spectacle paisible, au milieu d'une nature luxuriante, cache un drame aux conséquences potentiellement catastrophiques. En effet, la région entière est menacée de disparition d'ici la fin du siècle. Construit au fil des millénaires par l'accumulation de sédiments transportés et déposés par le fleuve Mékong et son arborescence de cours d'eau, au terme d'un long voyage à travers 6 pays, depuis les hauteurs de l'Himalaya, en Chine, jusqu'à la mer de Chine méridionale, au sud du Vietnam, le delta du Mékong est une terre fertile où vivent près de 18 millions d'habitants. Surnommé le bol de riz du Vietnam, avec plus de la moitié de la production nationale, sur seulement 12 % du territoire, il y contribue à nourrir la population de près de 100 millions d'habitants, en plus d'en faire le troisième exportateur de riz au monde, derrière l'Inde et la Thaïlande. Les fruits et légumes y sont également abondants. Ses cours d'eau, sa côte et ses fermes d'aquaculture présentent la deuxième diversité d'espèces sur la planète après le bassin de l'Amazone, avec un millier d'espèces différentes, et assurent au Vietnam le troisième rang mondial pour les exportations de crevettes et le premier pour les exportations de pangasius. Mais cet éden se trouve, en moyenne, moins d'un mètre au-dessus du niveau de la mer. Et au rythme où vont actuellement les choses, 90 % de son territoire aura disparu sous les eaux d'ici la fin du siècle, ont prévenu, en 2022, des experts dans la revue scientifique Science. Vous écoutez Un paradis perdu au Vietnam par les humains. Un texte d'Éric Desrosiers, paru le 12 février 2024 dans Le Devoir. La faute des humains. C'est la faute, bien entendu, des dérèglements climatiques, avec l'élévation du niveau de la mer, l'érosion, les inondations et les destructions causée par des typhons de plus en plus fréquents et violents, sans parler de saison des pluies et de saison sèche sans cesse plus extrême. Mais c'est surtout la faute des humains qui font tout de travers, parfois même lorsqu'ils essaient d'arranger les choses. En effet, s'il est vrai que le niveau de la mer monte, en moyenne, d'environ 4 mm chaque année, il faut savoir qu'au même moment, le delta du Mékong coule 5 à 10 fois plus vite selon les endroits, de 1,2 cm à 2,5 cm, explique Brian Eiler, spécialiste de ces questions à l'organisation de recherche et d'action Stimson Center. C'est que pour passer d'une seule récolte de riz à trois par année, on a entouré les champs de digues permettant de mieux en contrôler l'irrigation et de se protéger contre les dommages infligés par les crues et les inondations saisonnières. Le problème est que ces inondations venaient aussi déposer une couche de sédiments partout sur le territoire, rehaussant le delta par rapport au niveau de la mer, en plus de faire office de fertilisant. Ce grand va-et-vient de l'eau servait aussi de mécanisme naturel de nettoyage et de désinfection du sol qu'il a fallu, comme les sédiments, remplacer par des produits chimiques qui finissent fatalement par aller polluer les cours d'eau. C'est aussi que ce pouls du Mékong, qui battait au rythme des crues saisonnières, est en train de s'éteindre avec la multiplication de barrages hydroélectriques en Chine et ailleurs qui viennent en régulariser le débit en amont. Qui plus est, ces barrages retiennent déjà dans leurs réservoirs de 50 à 70 % des sédiments qui descendaient autrefois le courant pour se déposer dans le delta, et cette proportion pourrait atteindre 96 % si rien n'est fait et que les quelques 150 nouveaux barrages en construction ou planifiés viennent s'ajouter à la cinquantaine déjà existants. Nous avions hérité d'un paradis et nous avons trouvé le moyen de le perdre en une génération, se désole Nguyen Ou Tien. La Chine fait valoir qu'elle contribue ainsi à réduire les dommages infligés par les inondations en aval, mais toutes les recherches montrent que ces dommages étaient bien inférieurs aux dommages environnementaux et humains que font subir les barrages actuellement, explique Brian Eiler. Pour compliquer encore un peu plus les choses, le Cambodge caresse le projet de creuser un canal qui relierait sa capitale, Phnom Penh, au golfe de Thaïlande, à l'ouest. Cela éviterait à ses bateaux de devoir descendre le Mékong à travers le Vietnam, mais viendrait aussi encore détourner une autre partie des eaux du fleuve. Une eau et des poissons affamés. Les poissons sont aussi touchés. Les barrages n'empêchent pas seulement la migration de plusieurs espèces, ils retiennent aussi les sédiments dont peuvent se nourrir de moins en moins de poissons sauvages. L'abaissement du lit des cours d'eau avec l'extraction du sable et la diminution de leur débit permettent également à l'eau de mer d'entrer de plus en plus profondément à l'intérieur des terres, bouleversant l'écosystème. « Il n'y a pas que les poissons qui ont faim », explique Nguyen Ou Tien, un expert et consultant international sur ces questions depuis une trentaine d'années. Libérée de ses sédiments, l'eau descend le courant avec plus de force et de vitesse, ce qui accélère l'érosion des berges et emporte un nombre grandissant de maisons et d'infrastructures riveraines. On appelle cela de l'eau affamée. une accélération de l'érosion se produit aussi le long de la côte. En effet, les sédiments et le sable qui étaient autrefois transportés jusqu'à la mer contribuaient non seulement à un foisonnement de vie marine et au maintien de la mangrove, ils venaient aussi à déposer une sorte de coussin de protection autour du delta, capable d'absorber une partie du choc des typhons. Rappel, Nguyen Wu Thien. Mais tout ce fragile et complexe équilibre est en voie de se détraquer, dit en soupirant ce fils d'agriculteur qui se souvient du temps où, enfant, il osait encore se baigner dans le cours d'eau à côté de chez lui et en ressortait un poisson pour le souper. Aujourd'hui, la pêche de poissons sauvages a largement été remplacée dans le delta du Mékong par l'aquaculture et le rendement des terres ne cesse de diminuer. Les pêcheurs, comme les agriculteurs, qui ne sont pas parvenus à suffisamment augmenter leur volume de production pour gagner leur vie, ont tout vendu aux autres et sont partis travailler dans les manufactures de la région d'Ho Chi Minh-ville. Nous avons hérité d'un paradis et nous avons trouvé le moyen de le perdre en une génération. Vous écoutez « Un paradis perdu au Vietnam par les humains », un texte d'Éric Desrosiers paru le 12 février 2024 dans Le Devoir. Des solutions qui compliquent les choses. Engagés dans une production de plus en plus intensive, en même temps de devoir composer avec une diminution, une pollution et une salinisation des cours d'eau, les agriculteurs se sont mis à pomper frénétiquement la nappe phréatique. Le delta du Mékong est comme un melon qu'on creuserait de l'intérieur. À mesure qu'on le vide, il s'affaisse, rapprochant dangereusement le moment où il sera plus bas que le niveau de la mer, explique Nguyen Wu Thien. Pour se protéger de cette menace, le Vietnam a déjà construit un ensemble de 10 000 digues et isole de plus en plus son delta de la mer. C'est ce qu'on a fait aux Pays-Bas et dans le delta du Mississippi aux États-Unis. Mais c'est une solution qui coûte excessivement cher, particulièrement pour un pays en voie de développement, dit l'expert. De plus, on finirait ainsi par couper complètement tout approvisionnement de sédiments et de sable vers les côtes qui se trouveront ainsi baignées d'une eau désertique. Pendant longtemps, on a attribué les problèmes du delta du Mékong au changement climatique, observe Marc Guachot, responsable du programme Eau du Fonds mondial pour la nature, WWF, pour l'Asie-Pacifique. C'était très pratique, parce que c'était un phénomène extérieur. Cela devient plus compliqué lorsqu'on admet que les changements climatiques ne sont que l'une des causes du problème, mais aussi simplement un révélateur d'autres facteurs humains. Nous devons commencer par reconnaître nos erreurs, nous défaire de cette image de l'humain aux commandes de la nature et chercher des façons de reconstruire la résilience du système que nous avons affaibli, dit Nguyen Wu Thien. Cela devra passer, entre autres, par l'arrêt de la construction débridée de barrages et une meilleure gestion de ceux qui existent déjà, indique Marc Guachot. L'affaire ne sera pas facile, parce qu'elle nécessitera la coopération entre 6 pays aux intérêts et aux problèmes pas toujours concordants. Le Franco-Canadien, basé à Ho Chi Minh-ville, se dit malgré tout encouragé par les initiatives déployées récemment par les gouvernements de la région qui ont enfin commencé, par exemple, à documenter les réserves de sédiments et de sable disponibles et ce qui leur arrive. Cela peut paraître élémentaire, mais ça n'avait jamais été fait. La compréhension scientifique de la plupart de ces phénomènes reste très récente. Elle n'a pas 10 ans. Quand on sait cela et qu'on voit ce qui se fait ailleurs dans le monde, je dirais que la réponse des autorités locales est même exemplaire. « Qui sait ?» dit Nguyen U Thien. « Il n'est peut-être pas trop tard pour que je puisse, un jour, retourner dans mon village et m'y baigner comme quand j'étais petit. » C'était Un paradis perdu au Vietnam par les humains. Un texte d'Éric Desrosiers, paru le 12 février 2024 dans Le Devoir.
Une patate à l'index. Un texte de Marc Cassivi, paru le 8 février 2024 dans La Presse. Une patate à vélo, livre illustré de l'auteur à succès Élise Gravel, raconte l'histoire d'une pomme de terre à bicyclette, d'un brocoli qui s'est compté et d'une mouche qui parle au téléphone. C'est un livre à l'image de son œuvre extrêmement populaire auprès des jeunes lecteurs, pleine d'humour, d'esprit et d'humanité. Élise Gravel, la citoyenne, est une progressiste qui dénonce les injustices. Aussi, elle a exprimé beaucoup de compassion ces derniers temps pour les enfants de Gaza. Plus de 5 000 enfants sont morts à Gaza depuis 4 mois. Quelques 11 000 enfants gazaouis ont été blessés, plus de 17 000 enfants sont séparés de leurs parents et des milliers d'autres sont portés disparus selon l'UNICEF, qui rappelait mercredi que la bande de Gaza est l'endroit le plus dangereux au monde pour un enfant. Élise Gravel écrit des livres pour les enfants. Il tombe sous le sens qu'elle ait de l'empathie pour les enfants victimes du conflit israélo-palestinien, y compris, bien sûr, les 36 enfants assassinés par le Hamas le 7 octobre dernier. Elle dénonce évidemment sur les réseaux sociaux, où elle a des dizaines de milliers d'abonnés, le massacre de milliers d'enfants palestiniens par l'armée israélienne. Cette auteure primée est une excellente vulgarisatrice. Elle fait un travail essentiel d'éducation populaire, notamment sur la situation à Gaza, où la déshumanisation du peuple palestinien a atteint des niveaux ahurissants. La Bibliothèque publique juive de Montréal vient de mettre une patate à vélo ainsi qu'une trentaine de livres d'Élise Gravel à l'index. Il s'agirait d'une décision de son nouveau directeur général, Alain Danziger, qui fut à la tête des Grands Ballets canadiens, GBC, pendant 22 ans. Pourquoi? Parce qu'Élise Gravel compatit avec le malheur des Palestiniens? Parce qu'elle pourfend le gouvernement de coalition de droite et d'extrême droite de Benjamin Netanyahou? Parce que des militants pro-israéliens l'accusent d'antisémitisme? Plusieurs, notamment chez les progressistes israéliens, estiment que par sa violence, le gouvernement israélien actuel nourrit l'antisémitisme. D'autres semblent confondre critique du gouvernement israélien et antisémitisme, une accusation qui est portée avec beaucoup trop de facilité et de légèreté ces jours-ci. Il ne manque pourtant pas d'occasion de dénoncer l'antisémitisme, le vrai, qui est en recrudescence. Élise Gravel reconnaît que certains dessins qu'elle a publiés ces derniers mois sur les réseaux sociaux ont pu sembler équivoques ou reposer sur des informations dont la véracité n'est pas démontrée. Dans l'un d'eux, qu'elle a ensuite retiré, elle citait par exemple un de ses abonnés qui prétendait qu'Israël a la plus vaste banque de peau au monde récoltée sur des Palestiniens. Une affirmation qu'elle a plus tard elle-même qualifiée de problématique. Elle dit avoir été ouverte aux commentaires de ses lecteurs et prompte à rectifier le tir. Parfois, si quelqu'un fait un commentaire pertinent, « Je modifie mes publications pour clarifier », dit-elle. La Bibliothèque publique juive de Montréal, BPJ, situé dans le quartier Côte des Neiges, a néanmoins décidé de retirer tous les livres d'Élise Gravel, en anglais comme en français, de ses rayons. Même si elle les juge objectivement inoffensifs, humoristiques et éducatifs. L'ensemble de son œuvre que la BPJ détient à ce jour sera toujours accessible sur demande, précise une porte-parole par voie de communiqué. Cette approche reflète notre engagement à répondre aux différentes préoccupations et sensibilités de la collectivité tout en permettant l'accès à une diversité de perspectives. Le directeur général, Alain Danziger, n'a toutefois jamais répondu à notre demande d'entrevue. On repassera pour le dialogue. Pour avoir désormais accès au livre d'Élise Gravel à la BPJ, il faudra donc en faire la demande expresse à un bibliothécaire au comptoir. Comme pour les lames de rasoir à la pharmacie. Il n'y a pourtant dans les œuvres telles que « Le pire livre du monde »,« Bienvenue à la monstrerie » ou « Je suis terrible », pas la moindre référence au conflit israélo-palestinien, à la colonisation, au mépris des résolutions de l'ONU, aux notions d'apartheid ou de génocide. Mes livres n'abordent absolument pas les sujets pour adultes que j'aborde sur les réseaux sociaux, m'explique Élise Gravel en entrevue. Vous écoutez « Une patate à l'index », un texte de Marc Cassivi, paru le 8 février 2024 dans la presse. Qui aurait cru qu'au Québec, en 2024, on mettrait des livres à l'index comme au temps de Duplessis et de la Grande Noirceur? En 2010, alors qu'il était à la tête des GBC, Alain Danziger dénonçait lui-même ce qu'il disait s'apparenter à une forme de censure de la part du gouvernement conservateur de Stephen Harper qui avait sabré les programmes d'aide aux tournées à l'étranger. Qu'une bibliothèque publique, qui devrait être un sanctuaire de la liberté d'expression, puisse prendre une telle décision est non seulement absurde, mais inadmissible, scandaleux et révoltant. Or, dans une chronique publiée mardi 6 février dans The Suburban, un hebdomadaire anglophone de l'ouest de Montréal, le conseiller municipal de Côte-Saint-Luc, Mike Cohen, souhaitait que d'autres bibliothèques emboîtent le pas. Rien que ça. Ça n'a pas lieu d'être dans une bibliothèque publique, confirme Ève Lagacé, directrice générale de l'Association des bibliothèques publiques de Montréal, dont ne fait pas partie la Bibliothèque publique juive de Montréal. Si les demandes de retrait de la part de citoyens sont très fréquentes dans les bibliothèques publiques du Québec, essentiellement pour des raisons idéologiques, la diversité de genre, par exemple, ou de révisionnisme historique, il est extrêmement rare que l'on y retire une œuvre des rayons. On est vraiment des gardiens assez farouches de la liberté intellectuelle. On est vraiment contre la censure, rappelle Ève Lagacé, pour qui il est primordial de ne pas amalgamer l'auteur et l'œuvre, ce qui n'a manifestement pas été fait par la BPJ. Ici, la distinction est facile à faire, dit-elle avec raison. Une campagne de dénigrement. La mise à l'index de ces livres est l'aboutissement d'une campagne de harcèlement, d'intimidation et de dénigrement d'Élise Gravel sur les réseaux sociaux. Les insultes que je reçois sont inimaginables, dit-elle. Parce que je suis en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza, on me traite de pédophile, de complice de viol et de terrorisme. On m'a dit que je devrais être électrocuté. Des parents m'ont dit qu'ils avaient dû expliquer à leurs enfants pourquoi leur auteur chouchou voulait qu'ils meurent dans une chambre à gaz. Mais c'est moi qui suis dangereuse, semble-t-il. Malgré le torrent de haine qui l'accable, elle a même reçu des menaces de mort. Élise Gravel persiste et signe. Il n'est pas question qu'on la fasse taire parce qu'elle ose courageusement exprimer ses opinions. Elle est appuyée par de nombreux militants pour la paix avec qui elle collabore, notamment ceux de l'organisme Voix juive indépendante Canada, qui subissent comme elle des salves incessantes d'insultes depuis des mois. Simplement parce qu'ils manifestent de la compassion pour Gaza, se désole-t-elle. Il n'y a pas qu'à la Bibliothèque publique juive de Montréal qu'on a fait des pressions afin de nuire à la réputation et à la carrière d'Élise Gravel. L'auteur et illustratrice fait aussi l'objet d'une campagne d'annulation de la part de militants pro-israéliens qui réclament à ses éditeurs qu'elle perde ses contrats. Il s'agit, ni plus ni moins, d'un appel à la censure d'œuvres artistiques. Élise Gravel s'y connaît en la matière, elle qui a vu l'un de ses livres, sur les stéréotypes de genre, banni dans plusieurs États du sud des États-Unis après une campagne de boycottage. Contrairement à la croyance populaire, la culture du bannissement est un phénomène beaucoup plus répandu chez les conservateurs que chez les progressistes. Il n'y a qu'à faire un tour dans une bibliothèque floridienne pour s'en convaincre. Qu'une telle censure s'immisce dans une bibliothèque québécoise devrait tous nous inquiéter. On importe chez nous les méthodes de la droite identitaire américaine pour s'attaquer à la liberté d'expression des artistes. Élise Gravel remarque ce glissement depuis un certain temps, notamment avec les militants anti-trans. Ça fonctionne, dit-elle. Ça réduit des voix au silence. Selon l'adage, quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Quand on veut faire taire la critique des politiques d'Israël, on dit qu'elle est antisémite. C'est de la diffamation. Ce sont des accusations graves que je n'accepte pas. Je vais agir en conséquence, me confie Élise Gravel, qui est représentée par l'avocat Julius Gray. L'artiste ne se laissera pas museler. Et elle a bien raison. Comme le disait Elie Wiesel, prix Nobel de la paix 1986, « J'ai juré de ne jamais me taire quand des êtres humains endurent la souffrance et l'humiliation, où que ce soit. Nous devons toujours prendre parti. La neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. » C'était Une patate à l'index, un texte de Marc Cassivi, paru le 8 février 2024 dans la presse.